7h20 à Paris, l'invité politique de RFI Matin, Frédéric Rivière, vous recevez ce lundi Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle, député de l'Essonne et président de Debout la France.
Bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
Bonjour Frédéric Rivière.
Le pass vaccinal a donc été définitivement adopté hier soir à l'Assemblée nationale. Vous avez voté contre. Qu'est-ce que représente pour vous cette nouvelle obligation sanitaire ?
Je ne reconnais plus mon pays. Ce n'est plus la France pour moi. C'est une atteinte incroyable aux libertés publiques. Et pas seulement pour les non-vaccinés, contrairement à ce qui est dit. Les non-vaccinés, ils sont habitués, ils avaient le pass sanitaire, faire un test tous les 24 heures pour sortir, aller au restaurant, prendre le train, etc. Mais pour les vaccinés, et ça personne ne le dit, c'est un piège pour les vaccinés, puisque le pass sanitaire sera désactivé, c'est-à-dire 90% des adultes privés de liberté, s'ils ne font pas, au bout de 7 mois, la troisième dose. Et qui dit demain qu'Emmanuel Macron ne dira pas « il faut une quatrième, une cinquième, une sixième ». Cela veut dire que ce n'est pas une obligation vaccinale. C'est une obligation à un abonnement d'injection expérimentale sous autorisation conditionnelle décidée par le PDG de Pfizer. Voilà la réalité, voilà où est tombée la France. On peut avoir un débat sur la vaccination.
Ce n'est pas le président de la République qui prend les décisions, mais le PDG de Pfizer ?
Il suffit d'un communiqué de presse d'une entreprise multicondamnée des milliards d'amendes aux États-Unis dans le passé pour que le gouvernement français impose aux 90% de vaccinés qui ont suivi les instructions des doses supplémentaires et qu'on les prive de liberté. Vous savez, on peut avoir un débat sur le vaccin. Moi, j'ai toujours recommandé le vaccin sur les personnes âgées, fragiles. Je ne suis pas un anti-vaccin, contrairement à ce qu'on dit. Pas du tout. En revanche, j'estime qu'il y a le libre arbitre sur un produit où on n'a pas de recul. Et que c'est le médecin traitant qui doit aider. Donc, ce n'est pas un débat vaccin, pas vaccin. C'est un débat sur la vision qu'on a de la société, la liberté de circulation. Mais si Poutine avait fait ça, mais tous les intellectuels français, les syndicats diraient que la Russie est devenue un pays totalitaire.
Aujourd'hui, un certain nombre de pays, parmi lesquels d'ailleurs certains de nos partenaires de l'Union européenne, ont choisi de rendre la vaccination purement et simplement obligatoire, dans certains cas avec des limites d'âge. Est-ce que cette solution vous aurait paru au fond plus franche et plus claire ?
Bien évidemment, j'y serais hostile parce qu'on n'a pas de recul, mais au moins c'est franc parce que la responsabilité de l'État est engagée. Mais Emmanuel Macron joue faux. En fait, ce projet de loi est un projet de loi bouc émissaire. Emmanuel Macron, pour dissimuler la fermeture des lits en 2020, moins 5700 lits, pour dissimuler la non-fourniture de purificateurs d'air dans les écoles, pour dissimuler l'absence de soins précoces sur les gens malades, ce qui est ahurissant, on est revenu au Moyen-Âge, alors que dans des pays, on traite les gens en précoce, pour dissimuler le manque de masques FFP2 pour les enseignants, pour les personnes âgées. En fait, pour dissimuler le fiasco de sa politique, a choisi la théorie du bouc émissaire. Et je n'aime pas cette théorie du bouc émissaire. Je veux qu'on rassemble les Français. J'ai toujours été très prudent. J'ai jamais été de ceux qui niaient l'épidémie. Mais je pense qu'il faut revenir à la raison, arrêter la peur. Et d'ailleurs, je remarque qu'il y a des pays qui commencent à dire qu'Omicron, c'est une grippe forte. Et l'Espagne notamment, et beaucoup de pays vont à l'encontre de ce que fait la France. Mais Emmanuel Macron se sert d'Omicron pour pas qu'il y ait de débat politique sur la présidentielle. Parce que, pardonnez-moi, mais il y a d'autres sujets dont j'aimerais parler.
On va en parler, mais rapidement, à chaque fois qu'Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles contraintes, au fond, la vaccination a avancé en France. Et aujourd'hui, une immense majorité de Français s'est fait vacciner, bon gré mal gré. Mais est-ce que ça n'a pas donné, a posteriori, finalement raison à la stratégie du président de la République ?
Eh bien, est-ce que c'est utile de vacciner des jeunes qui n'ont aucun effet grave ? Est-ce que c'est utile pour un jeune d'avoir un abonnement vaccinal à un produit qui d'ailleurs est de moins en moins efficace, puisque Emmanuel Macron a menti aux Français droit dans les yeux en disant « ça empêchait la transmission ». Il n'y a jamais eu autant de transmission et jamais autant de vaccinés. Donc, moi, je pense que tout ça doit être lié à un bénéfice-risque. Voilà, pour les personnes âgées peut-être, pour les jeunes sûrement pas.
Est-ce que vous n'avez pas fait, parce que vous le déplorez, mais de la crise sanitaire, le thème central, voire presque unique de votre campagne, c'est le reproche que vous fait par exemple Jean-Marc Chipot, qui était votre porte-parole, qui a décidé de quitter ses fonctions. Il dit Nicolas Dupont-Aignan ne parle plus que du Covid.
C'est pas moi qui parle que du Covid. D'abord, les Français ne parlent que de ça parce qu'ils en ont assez d'être privés de liberté. Et ils s'interrogent sur leur santé. On les oblige à mettre un produit dans leur corps, la libre disposition de son corps. Et puis deuxièmement, je ne souhaite que parler d'autre chose, mais posez-moi des questions sur un autre sujet.
Est-ce que vous croyez justement que les questions sanitaires aujourd'hui soient finalement assez loin dans l'ordre des priorités des Français, ou est-ce qu'elles sont tout de même assez haut placées?
Mais elles sont très haut placées, mais il n'y a pas que ça. Comment on fait son plein d'essence alors que les prix explosent? Comment Emmanuel Macron est en train de ruiner EDF et on va avoir des pannes d'électricité cet hiver parce qu'il a fermé Fessenheim? Comment on augmente le pouvoir d'achat? J'ai des propositions concrètes. Je veux réindexer les pensions de retraite sur l'inflation, parce que nos retraités sont spoliés. Je veux augmenter le salaire net de tous les Français jusqu'à 3 fois le SMIC en réduisant les fraudes à la carte vitale pour que l'argent récompense le travail. Je veux exonérer les droits de succession, la transmission de la résidence principale, dans la limite avec un plafond, de tous ceux qui ont économisé toute leur vie, qui veulent léguer quelque chose à leurs enfants. Donc moi j'aimerais qu'on parle de ça. Comment rendre les Français propriétaires de leur logement pour assurer leur retraite? Ce sont des sujets majeurs. On est à moins de 3 mois de la présidentielle.
Dans les grandes idées qui surgissent ou qui se développent pendant les campagnes présidentielles, si vous deviez être entendu et compris aussi sur un seul sujet, lequel serait-ce?
La démocratie. La France n'est plus une démocratie réelle.
Donc vous voulez changer, vous voulez, au fond, peut-être, vous ne parlez pas de 6e République, mais vous voulez tourner la page de la 5e République?
Du dévoiement de la 5e. Le général de Gaulle avait donné de grands pouvoirs au président avec une contrepartie.
Ils avaient donné presque tous.
Une contrepartie.
Oui.
Le référendum. Et le général de Gaulle est parti sur un référendum perdu. Les présidents successifs ont pris les pouvoirs et ont enlevé la responsabilité devant le peuple. Je veux réintroduire le référendum régulier. Je veux mettre en place le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Et je propose même le référendum révocatoire à mi-septennat, comme en Californie, pour qu'à mi-mandat, 3 ans et demi, le peuple français puisse dire maintenant, il faut décider si on le garde. On ne peut pas continuer avec une démocratie confisquée par les oligarques, une démocratie confisquée par certains médias, une démocratie qui pousse à l'abstention et demain à la violence.
À propos de démocratie, est-ce que vous avez plus de difficultés lors de cette campagne que lors des précédentes à obtenir les fameux 500 parrainages?
Oui, parce que les maires sont écœurés partout.
Mais est-ce que c'est le fait que désormais les parrainages soient rendus publics?
Oui, bien évidemment, mais il était déjà en 2017 pour la première fois. Mais je crois que les maires sont, comme les Français, désabusés. Et ce que je veux leur dire, je leur lance un appel parce qu'il m'en manque des parrainages, j'espère les avoir, mais c'est juste. Et je veux dire aux Français qui croient qu'en s'abstenant, ils punissent le monde politique. Mais c'est l'inverse. En s'abstenant, ils se punissent eux-mêmes parce qu'ils confortent ceux qui nous ont mis dans le mur. Et ce que je veux dans cette campagne, c'est dire aux Français et être l'instrument d'une... Je veux rendre le pouvoir aux Français. Je veux que les Français soient à l'Élysée. Sinon, la société française va exploser. Le pire bilan d'Emmanuel Macron, je vais vous dire lequel c'est. C'est qu'en fait, il s'est réjoui de diviser, de dresser les uns contre les autres. Et on ne redressa pas la France sans l'indépendance du pays, je suis gaulliste, l'indépendance de la nation, mais sans aussi le rassemblement des Français dans la liberté. Et je serai, je pense, le seul candidat qui est aussi clair sur la liberté individuelle et la liberté collective du peuple français.
Très rapidement, vous n'êtes pas découragé par votre intention de vote dans les sondages?
Non, parce que les sondages
sont... 1,5-2%.
Mais les sondages sont complètement manipulés. Ils partent des gens qui votent, qui sont certains d'aller voter. Il n'y en a que la moitié. Moi, je m'adresse aux 10-15 millions de Français qui aujourd'hui boudent les urnes et qui, s'ils le voulaient, pourraient mettre Macron dehors dès le premier tour. Il n'ira pas au second et ensuite changer réellement les choses.
Merci Nicolas Dupont-Aignan. Bonne journée.